Bonjour à tous et bienvenue sur L'Essentiel, le podcast qui vous invite à redécouvrir ce qui est essentiel pour vous et qui vous inspire l'envie de vous réaliser. Je m'appelle Yeba Olaye et j'ai fondé Yeba, une marque de maroquinerie essentielle. Ce podcast, c'est ma façon de continuer mon histoire avec vous, de continuer à vous inspirer et vous insuffler la confiance et l'envie d'être vous-même. À travers chaque interview, nous irons à la rencontre de personnalités inspirantes et singulières. Des femmes du monde, d'ici et d'ailleurs, qui ont osé suivre leur voie, qui ont osé se lancer dans une aventure incroyable pour réaliser leurs rêves. Nous parlerons de leurs débuts, des choix audacieux qu'elles ont posés, des chemins qu'elles se sont frayés et de ces petites choses, routines et croyances qui les font avancer. Nous essaierons d'apprendre d'elles et surtout d'oser grâce à elles. Finalement, l'essentiel n'est-il pas de... Et si on y répondait aujourd'hui ? Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à tous, je suis tellement heureuse de vous retrouver sur le podcast L'Essentiel. Ça faisait longtemps, il s'en passe des choses behind the scenes, notamment pour la marque, et c'est ce qui prend toute mon attention du moment et j'ai un peu ralenti sur le podcast. Comme vous le savez, je suis à la tête d'une marque de maroquinerie essentielle Yeba. L'année dernière a été une année en mi-teinte. Je vous avais expliqué que niveau santé, il a fallu batailler jusqu'à mon retour de vacances. C'était en août 2023. Et là, s'est posé une question. Qu'est-ce que je fais ? Parce que j'étais juste à l'aube de la saison haute. Pour la maroquinerie, la haute saison, c'est vraiment de septembre à Noël. Et c'est à ce moment-là que l'on fait les meilleures ventes. C'est à ce moment-là que le marché réagit. C'est à ce moment-là que voilà, les femmes veulent une jolie pièce, une nouvelle pièce, que ce soit pour la rentrée ou justement pour se faire plaisir parce que voilà, l'année a été longue ou... Enfin bref, c'est un moment propice pour se faire plaisir et vous connaissez un peu ma nature. J'ai beaucoup de mal à renoncer et je pense que pendant toute cette période de maturation où la marque était en pause, j'ai vraiment réfléchi à quels sont ces projets qui me tiennent tellement à cœur, qui me tiennent profondément à cœur que si jamais tout venait à s'arrêter, quel serait mon plus grand regret? Et j'ai réalisé que depuis le tout début, un de mes rêves et un de mes désirs les plus grands, c'était de créer un monogramme pour la marque. J'ai rêvé ce monogramme, je l'ai imaginé pendant des années sans vraiment réussir à dessiner quelque chose qui puisse être un imprimé fort et qui raconte une belle histoire. Et pour ce faire, quelques années précédentes, j'avais commencé le projet avec Inès, la jeune femme qui a signé justement tous les foulards, que j'ai rencontré et ensemble on a finalement réussi à un moment où j'avais vraiment besoin d'amener de la nouveauté. Tout s'est mis en place, j'ai fait la rencontre de Shelly de la marque Ndozi qui fait des foulards également, qui m'a soutenue et qui m'a présenté son atelier. On a pu très rapidement créer quelques essais et je ne vais pas vous raconter toute l'histoire mais ça a été un long chemin même si tout s'est joué dans un mouchoir de poche. C'est-à-dire, je pense, en un mois, on a dû sortir un carré de soie et ça faisait 2 ans qu'on travaillait dessus. Tout s'est joué à très peu de choses. Il y a eu des hauts et des bas que je vais laisser Inès vous raconter. J'ai appelé le foulard Adé. Adé veut dire la couronne. La symbolique de ce foulard est très particulière pour moi parce que c'est un objet que j'ai toujours trouvé extrêmement élégant sur les autres femmes, que je n'ai jamais réussi à m'approprier vraiment. Mais quand j'ai été opérée et qu'il fallait que je me protège du soleil, j'ai dû de force adopter le carré de soie. Et le carré de soie est devenu un des accessoires que je chéris le plus. Avec une pièce, il y a tellement de possibilités, aussi bien élégantes, classiques, que je dirais même sexy. Moi qui avais peur de perdre en féminité, grâce à ce petit carré de soie qui m'a protégée, je me suis sentie rayonner tout l'été. Notamment, je me suis vue rayonner, resplendir avec cette pièce avec laquelle j'ai beaucoup joué. Et je l'ai appelée Adé parce que on peut... Pour moi, c'est une pièce que l'on porte avec un joli port de tête. C'est comme une couronne pour vous rappeler que, voilà, vous êtes souveraine, vous êtes à votre place, dans la grandeur et l'élégance, de toujours porter la tête haute. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial, nous sommes le 12 avril, justement, c'est l'anniversaire de Inès, donc joyeux anniversaire à toi Inès, me tenait à cœur de sortir cet épisode juste au bon moment. Et je tenais encore à te remercier de m'avoir accompagnée et d'avoir été ce talent artistique qui m'a permis de révéler bien des facettes en moi. Je laisse donc place à notre conversation. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie parce que je suis posée ici au studio Yeba, avec Inès qui a travaillé avec moi sur les carrés de soie. Cette rencontre était une rencontre assez spéciale et ça faisait un petit temps qu'on se disait qu'on essaierait de trouver le moyen de justement partager l'envers du décor et vous expliquer un peu le processus. Merci Inès d'avoir accepté de venir à mon micro. Je sais que tu es quelqu'un d'assez pudique et c'est tout un exercice et que d'être là. Donc, bienvenue sur l'essentiel.
Merci beaucoup.
Voilà. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter ?
D'accord. Du coup, je m'appelle Inès.
J'habite Inès Cassin.
Inès Cassin.
C'est son nom que vous voyez sur les carrés.
Du coup, j'habite à Bruxelles depuis maintenant 5-6 ans. Je suis venue ici pour faire mes études en histoire de l'art et archéologie. Et je pense que ma passion dans la vie, c'est vraiment la peinture et la mode aussi en même temps. Je pense que c'est les deux choses que j'aime le plus.
Tu es au bon endroit. Tu dis, je suis arrivée en Belgique il y a 5-6 ans. Tu étais où ? Tu es de quelle origine ? Enfin, parle-nous de toi, de ton enfance jusqu'à arriver en Belgique, en fait.
Oui. Et donc, j'ai grandi à Lille. Donc dans le nord de la France, donc pas très loin d'ici au final. Mais après, la moitié de ma famille est du coup guadeloupéenne. Donc il y a un peu le mix des cultures à ce niveau-ci. Et j'ai une famille, je pense, assez mixte. On est vraiment de toutes les origines. Donc je pense que c'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup dans l'art, c'est de pouvoir voir tellement de choses. Et aussi pouvoir avoir le reflet vis-à-vis de ma famille. Mmh.
Ah, voilà. L'art s'est invité dans ta vie à partir de quand ? Comment est-ce que tu as su que c'était vers ça que tu voulais aller ? Enfin, qu'est-ce qui a été ton premier contact avec ce monde ?
Alors, je pense que j'ai commencé vraiment très très jeune. J'ai pas du tout, je pense, dès que j'ai su tenir un crayon. Ma mère travaillait dans la mode et donc du coup, j'ai toujours grandi avec des dessins partout autour de moi. Mon père est un infographiste, donc vraiment tout le monde dessine en fait dans ma famille. Même ma grand-mère qui dit qu'elle ne sait pas dessiner, elle dessine très très bien. Et ma mère m'a toujours poussée à explorer le côté artistique. Après, elle n'était pas trop pour que je fasse des études dans l'art ou dans la mode, vu qu'elle avait connu le milieu de la mode. Elle n'était pas trop pour ça, mais elle m'a toujours soutenue à ce niveau-ci. Elle m'a toujours dit qu'elle ne voulait pas que j'apprenne à dessiner par d'autres gens, elle voulait que j'apprenne toute seule. Mm-hmm. Donc ça m'a un peu forcée, dès le plus jeune âge, à vraiment apprendre par moi-même le dessin, la peinture, à me renseigner toute seule.
Tu me fais peur, elle ne voulait pas que tu sois dans la mode.
Non, est-ce maintenant que c'est bon. C'est bon maintenant.
Je ne voudrais pas qu'elle sonne à la porte.
Non, c'est parce que j'avais deux rêves quand j'étais petite, c'était soit faire médecine, soit travailler dans l'art et la mode. Et comme j'étais très bonne en scientifique, on m'a toujours dit « fais médecine, c'est le choix le plus logique ». Et en fait, ce n'était pas pour moi. Je pense que ce qui m'intéressait le plus dedans, c'était les cours d'anatomie parce que je pouvais dessiner. Donc c'est...
Okay.
Au final, je pense que j'ai fait le bon choix par la suite.
Mais ta maman dans la mode, pour ceux qui nous écoutent, parce que moi je te connais, qu'est-ce qu'elle faisait exactement et à quel point est-ce qu'elle était dans ce monde-là ?
Elle était styliste, mais pas styliste comme on l'entend aujourd'hui, où c'est mettre ensemble des looks. Elle dessinait vraiment pour les marques, du coup. Et je sais que j'ai grandi avec des histoires, elle me racontait des défilés auxquels elle allait, les choses qu'elle a créées. Là, j'ai ramené par exemple de France un pull qu'elle avait designé elle-même pour une marque. Donc du coup, j'ai pu le ramener, donc je suis très heureuse de pouvoir le porter. Donc elle était vraiment au cœur. Et quand elle travaillait surtout à Paris, elle a aussi un peu travaillé en Belgique. Et après ça, elle a décidé d'arrêter. Parce que le milieu de la mode, c'est en fonction d'avec qui on travaille, je pense que ça peut faire un coup.
Mmh. Et est-ce que tu as des noms de maisons dans lesquelles elle a travaillé ou pas forcément ?
Pas forcément.
Pas forcément, ok. Et son style à elle, c'était, il ressemblait à quoi ? Est-ce qu'il t'a influencé, toi ?
C'est le style vestimentaire ?
Son style artistique, créatif ?
Je pense un peu au début, mais après, j'ai vite eu la liberté, par exemple, quand je vois les dessins qu'elle faisait, on n'a pas du tout le même style de représenter les corps et de représenter les vêtements sur un corps, c'est deux choses complètement différentes. Mais j'ai toujours quand même regardé ce qu'elle faisait pour voir la technique, justement, vu que je n'ai pas appris toute seule. Enfin, justement, vu que
pourquoi
j'ai appris
elle voulait
toute seule.
Pas, pourquoi elle ne voulait pas que tu... Enfin, pourquoi c'était si important pour elle que tu apprennes toute seule?
Elle m'a dit qu'elle voulait que je trouve ma manière de m'exprimer, ma manière personnelle, parce qu'elle sait, enfin, ça paraît un peu snob de dire comme ça, mais elle savait que je savais dessiner et que j'avais le potentiel. Donc elle voulait que j'apprenne vraiment et que je sois pas trop formatée par des codes déjà prérequis, entre guillemets. Parce qu'il y a beaucoup, on apprend souvent l'art par le mimétisme, donc en recopiant d'autres choses. Et je pense qu'elle voulait vraiment que je trouve ma propre voix à ce niveau-ci.
Et ta voix, ton style, tu l'as trouvé? Et si oui, à quoi est-ce qu'il ressemble?
Je pense que c'est en perpétuelle évolution. Ça varie très souvent. Ça varie surtout en fonction de ce que je regarde et ce qui me fait plaisir à voir en fait, autour de moi. Et d'un coup, je vais piocher quelque chose quelque part et mélanger avec des choses que je faisais déjà avant. Enfin, j'aime bien que ça change en permanence.
Oui. Et quels sont les... Comment est-ce que tu t'exprimes à travers ton art? C'est vraiment le dessin, la peinture, c'est la vidéo, c'est...
J'aime bien toucher à tout. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vu que justement j'ai eu la liberté de pouvoir apprendre toute seule, ça m'a donné aussi l'envie d'apprendre plein de choses différentes. Donc par exemple la peinture, c'est plus tardivement que le dessin par exemple. Mais par exemple j'ai appris à coudre par moi-même, ma mère m'aidait un petit peu, mais à coudre des vêtements, donc je dessinais des choses que j'essayais de refaire après. La photographie, j'aime beaucoup, surtout tout ce qui est sur pellicule, donc un peu moins numérique. J'ai récupéré l'ancien appareil photo de ma mère, donc...
Tu vas pouvoir t'amuser.
Oui, c'est ça. J'aime beaucoup, en tout cas, de pouvoir tout essayer. C'est...
Et donc, histoire de l'art.
Oui, du coup.
Pourquoi ces études-là et qu'est-ce que tu voulais faire avec ces études-là?
Alors, le premier plan de base, donc, c'était pour rassurer un petit peu ma mère en choisissant ce type d'études. C'était pouvoir faire conservation de musée. Mais j'ai vite senti que j'avais besoin d'être, pas seulement de m'occuper des artistes, entre guillemets, mais aussi d'en être une à part entière. Donc pouvoir fonctionner et faire des va-et-vient un peu dans les deux domaines. Donc là, ça serait plus pour travailler par exemple en galerie d'art, donc plus dans tout ce qui est art contemporain et art moderne, pour avoir plus facilement accès, pouvoir discuter directement avec d'autres artistes. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est ancien. Mais je trouve que c'est aussi très important de mettre en valeur les choses récentes et nouvelles. Donc, je pense que ça serait plus oui pour faire en galerie d'art, par exemple, faire des expositions.
Donc, c'est ça qui t'a amené ici à Bruxelles pour entamer ces études-là. Et j'ai pas, c'est pas assez clair dans mon esprit. C'est quelle date on a, quand est-ce qu'on a été en contact pour la première fois? Mais pour la petite histoire. Moi, comme tout le monde, j'étais sur Instagram et j'ai découvert une peinture de toi. Je ne te connais pas, c'est pas vraiment, mais qui m'a fascinée. Et tu avais fait un portrait pour la marque Tongoro. Et je trouvais que c'était tellement à la fois moderne et à la fois emprunté des codes des légendes anciennes. J'ai trouvé que c'était culturellement très fort. On sentait vraiment une patte personnelle et un style personnel. Et je me souviens que je t'ai envoyé un message pour dire « J'ai adoré votre tableau. Est-ce qu'il est possible que vous puissiez en faire un pour ma marque ?» Est-ce que tu te souviens à quel moment
Alors, j'étais à Toulouse, je pense, à ce moment-là, parce que j'y ai un petit peu habité. Entre-temps, c'était juste après le Covid, je pense, juste après tous les confinements.
Je pense, oui. Oui, c'était au moment de mon revival, mon retour avec la marque, donc j'étais tout faisons plein de nouvelles choses. Oui, oui, je me souviens.
C'était juste là, je pense, c'était juste avant que je rentre sur Bruxelles, du coup.
Oui.
Parce qu'on avait parlé, du coup, de se voir par visio, et j'avais fait quelques petites recherches, et j'ai vu que tu étais à Bruxelles.
Oui.
Donc,
oui.
Comme j'y allais dans une semaine plus tard.
Et en fait, l'idée de départ, parce que je voulais t'avoir au micro de l'essentiel, parce que c'est intéressant de voir comment on en est arrivé à créer ces foulards-là et raconter l'histoire de l'essentiel. Il y a eu pas mal de débats, ça va être fun. Ça va être fun de les partager. Et je me souviens qu'au départ, il n'était pas forcément question de foulard. C'était vraiment, j'étais fascinée par ta peinture, et on s'était rencontrés, et j'avais dit, je pense que je voulais que tu m'aides à faire ce monogramme, mais j'avais pas encore l'idée de foulard. C'est, peut-être toi, tu peux... Moi, donner ta version à toi.
Ce dont je me souviens,
oui.
C'est que du coup, on avait échangé via Insta.
Oui.
Et donc, tu m'avais parlé de faire une représentation pour la marque en peinture. Et je suis arrivée avec un foulard sur la tête.
Oui.
Et tu m'as dit, quelle coïncidence, je voulais te parler justement de ça.
C'est
et du
vrai,
fait que
déjà?
Je portais des foulards, oui. Et tu m'as exprimé du coup l'idée de foulard à ce moment-là, je me souviens.
Si tôt?
Oui. Parce okay. que tu m'avais vu avec...
Mais je me souviens surtout que dans ma tête, c'était... la peinture, mais je ne savais pas comment l'intégrer dans la marque, et le portrait. Et l'idée peut-être du monogramme est arrivée un peu après.
Il me semble que ça arrivait un petit peu.
Mais donne-nous ta version à toi. Et moi, je donnerai ma version et on verra comment les choses... Parce que ça date quand même. Hein. C'était un très long processus avant d'y arriver.
Il y a 2 ans au moins, je
oui,
pense.
Oui, au moins, oui. Donc il y a 2 ans, on se rencontre. Et comment c'était pour toi, cette rencontre? Déjà... qu'est-ce que tu avais en tête, toi et
Alors moi, je ne savais pas du tout, parce que c'était la première fois que je pense que je répondais à un DM sur Insta comme ça. Donc j'ai fait des recherches.
Est-ce que ce n'est pas une folle?
Mais, du coup, vu que je ne connaissais pas la marque, donc oui. Vraiment, j'ai d'abord fait quelques petites recherches. Et quand je suis arrivée, je me souviens, je pense que je n'étais pas du tout préparée. J'avais quelques dessins avec moi, mais... Vu que c'était pas mon occupation principale à ce moment-là, je pense pas que j'avais de lookbook ou que j'avais de portfolio. Et je me souviens que ça t'avait un peu perturbée. Parce que je suis arrivée sans portfolio, sans rien. Et juste quelques croquis. Et j'avoue que je savais pas, vu que c'était la première fois, mais je savais pas trop comment me préparer à ce moment-là. Pour, je suis allée, bon, on verra.
Oui, qu'est-ce qui est ressorti de ce premier entretien?
Je me souviens qu'on avait beaucoup discuté. Moi, j'étais ressortie assez contente, en tout cas. Je me souviens être arrivée, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Tu étais si accueillante, si chaleureuse, très gentille, et ça m'a fait du bien. Et du coup, ça m'a mis un peu plus à l'aise, je pense. Moi, c'est comme ça que je l'avais vécu, du coup, à ce moment-là.
Oui.
J'étais toute jeune, en plus,
oui,
comparée à maintenant.
Oui, je me souviens de ce premier rendez-vous où je me suis dit, ça, c'est vraiment un talent brut. Mais je n'avais pas trop la certitude de savoir dans quelle direction on allait. Enfin, une chose était certaine, je trouvais que tu avais un coup de pinceau incroyable, que tu avais une sensibilité assez fine sur la mode et que tu avais, quand je te racontais l'histoire de la reine Yeba, compris qu'il fallait peut-être faire des recherches et intégrer des codes de mon histoire, de mes ancêtres dans ce carré de soins. Et oui, à un moment donné, on s'était dit, on va partir d'abord sur les peintures. Et c'est là que tu as commencé à faire des essais, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les recherches que tu as dû faire, ce que tu as trouvé et comment tu as essayé de construire justement ce portrait qu'on essayait de réaliser de la reine Yeba dans ce foulard?
Alors du coup, il faut savoir que moi, de base, j'aime beaucoup peindre des statues. Et que quand j'ai réalisé le tableau pour Tongoro, c'était très important pour moi vu que j'avais pour habitude de réaliser des statues gréco-romaines. Mmh. Et c'est des statues qu'on connaît comme blanches par rapport avec le temps, en fait, où toutes les couleurs en fait, se sont effacées, mais c'est une certaine représentation de l'idéal blanc, entre guillemets. Et donc, quand j'ai réalisé le tableau pour Tongoro, je me suis dit, j'ai pas envie de représenter la même chose vu que c'est deux histoires complètement différentes. Et quand on a discuté ensemble, il faut savoir que je faisais beaucoup de recherches sur les bronzes d'Iffé, et qui est donc du coup dans la même région.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les bronzes d'Iffé, est-ce que tu peux donner un peu de contexte? C'est
alors,
où
c'est...
et ça date de quelle époque et...
Alors pour l'époque, je ne me souviens plus de l'époque précise, mais c'est du coup des bronzes, donc c'est majoritairement des visages, donc en fait, réalisés du coup en bronze, et c'est sur la frontière avec le Nigeria, et du coup avec le Bénin aussi. Mmh. C'est des statues que je trouve magnifiques en fait, de base.
Mmh. Et il faut savoir que moi, je suis Yoruba.
Du coup.
Et Yoruba, c'est vraiment une ethnie qui est principalement au Nigeria, mais qui s'étend aussi sur le Bénin. Et mon père est Tchabé, donc c'est encore une partie des Yoruba. Ou en tout cas une branche des Yoruba. Et effectivement, quand tu m'as parlé des bronzes d'Ifé, je me suis dit, ah, elle a vraiment fait des recherches et elle est dans la bonne direction. Ouais.
Mais parce que j'ai eu un cours, en fait, donc sur la sculpture, et il y avait toute une partie, du coup, sur les bronzes d'Ifé qui m'avait beaucoup marquée, en fait. parce que je trouve qu'on a tendance à minimiser énormément l'art africain de manière générale. Je voyais une interview de Michel Onfray la dernière fois qui parlait de ça et ça m'a vraiment énervée.
N'en parlons pas.
Et du coup, ça m'a passionnée de vraiment commencer à faire des recherches plus en profondeur justement sur toutes les techniques différentes parce qu'il faut admettre que c'est deux choses complètement différentes. Et le fait qu'on parle de ça et qu'en plus de ça, tu sois de la région justement d'une partie d'art qui m'intéresse énormément, je pense que ça a fait un petit déclic.
Oui. Oui, c'est vrai.
La coïncidence était... Oui.
C'est vrai. Et en fait, on s'était dit, pour moi, c'est Yéba, c'est... En tout cas, c'est la représentation que je veux en faire, c'est celle de cette reine qui portait ce nom. Et donc, en faisant des recherches, on n'a pas trouvé l'histoire en elle-même, parce que je pense qu'elle elle s'est transmise de manière orale. Mais on s'était dit, on va intégrer certains codes de la royauté et on va aussi trouver une manière de l'habiller. Donc moi, c'est dans mon souvenir, on essayait de... Mmh. Vu qu'on n'a pas pu trouver d'image ou de point de départ, on s'est mis en tête de la matérialiser d'une manière où moi, je sois à l'aise par rapport la manière dont je l'ai construite dans ma tête, et toi, par rapport au code de... justement, de l'histoire, hein, oui. Culturelle. Et donc, comment, sur quoi est-ce que tu es partie et comment est-ce que tu as réussi à justement arriver avec des idées qui puissent coller avec ces deux objectifs-là?
Mais moi, je me souviens d'une fois où tu m'avais parlé justement de Yéba en tant que reine et tu m'avais cité plusieurs, disons, caractéristiques en fait. Donc, il y avait majestueuse, mais que ça restait une femme. Donc c'était tout un mélange et le but c'était un peu de mélanger tout ça. Donc avec la stature, avec la représentation de la femme en même temps. Je ne sais pas trop comment expliquer.
Non, mais c'est parfait, vas-y.
C'était vraiment le but, c'était de réussir à avoir toutes les caractéristiques en fait d'une femme, d'une reine, qui est aussi une guerrière. Parce que du coup j'avais vu aussi, j'avais fait un peu de recherche et du coup dans certaines représentations elle est aussi... Elle prend vraiment le rôle de matriarche, en fait, pour tout un peuple. Donc, il y a tellement de choses à raconter sur ça qu'il faut réussir à tout mélanger en même temps. Et le but, c'était vraiment de respecter chaque partie. Et, ouais.
Et visuellement, comment est-ce qu'on... Enfin, quelles ont été les différentes étapes pour y arriver On a commencé par la peinture, mais tout le monde peut voir que le résultat final est assez graphique. Donc, quelles ont été les différentes étapes?
Donc il y avait tout d'abord les premières peintures, on s'était accordé sur un profil pour mieux représenter justement. Et au fur et à mesure, oui, c'est devenu un peu plus graphique pour pouvoir mieux s'allier à l'esthétique de la marque justement, pour pas que ça soit trop d'un coup différent. Donc je me souviens, oui, c'était parce qu'on avait aussi peur un peu du rendu d'une peinture directement sur un foulard et des détails.
Qui et à déjà... juste titre.
Mais il y a eu beaucoup d'essais de peinture avant. Oui. Et je pense que c'est la silhouette au final qui était la plus marquante. Donc c'est ce qu'on a gardé. Même si c'est graphique, on a gardé la même silhouette que la peinture de base qui était imaginée en fait au final.
Oui. Parce qu'au départ, oui, c'est vrai qu'il y a eu une peinture que tu as dans différentes postures d'ailleurs. Et on est resté sur cette peinture. Puis on s'est dit, oui, sur un carré de soie, ça va être compliqué. Et ça va être... Il faut... Ce n'est pas un tableau, donc il faut imaginer que nos clients, enfin, que celle qui le porte ne se retrouve pas avec un tableau,
oui, c'est ça,
littéral, mais qu'elle puisse jouer avec. C'est et donc, on s'était dit, les codes de la marque sont assez minimalistes et graphiques, donc comment est-ce qu'on peut partir de cette silhouette-là et l'intégrer dans le foulard? Mais ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que là où ça a été un peu difficile, c'était vraiment d'arriver à ce monogramme. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait une obsession en disant « Mais on ne peut pas lancer un carré de soie si je n'ai pas un monogramme avec lequel jouer. » Et donc là, a commencé ton cauchemar sur les Y. Comment on y arrivait d'ailleurs, oui.
Je pense que le déclic s'est fait une fois où j'étais ici, on parlait de design de sac. Et tu me parlais d'un fermoir où tu voulais incorporer les Y dessus.
Oui.
Et j'ai commencé à jouer avec les Y. Et c'est au fur et à mesure de ça Enfin, je sais que c'est l'origine, en tout cas, du jeu pour le monogramme. C'était vraiment par rapport au fermoir, où j'essayais de trouver une idée de fermoir, et au final, je suis partie sur un monogramme. Et dans mes souvenirs, c'était comme...
On s'était retrouvés, et on s'était dit, jusqu'au finish, on va trouver ce monogramme. Mmh. Je pense que tu avais préparé plusieurs propositions, mais que c'était pas tout à fait ça. Mmh.
Au final, c'est ici que...
C'est ici. Oui. Je crois qu'on est... Tu étais toute rouge et moi, j'étais...
Je sais avoir tourné l'ordinateur. Et tu m'as fait, je pense qu'on l'a.
Oui, quand on l'a trouvé, mais c'était...
On a soufflé d'un coup.
Ah non, mais quelle joie, c'était... Parce que ça a été un long processus de trouver comment les disposer pour que ça soit fluide.
Et lisible aussi.
Et lisible, hein. Sans l'être de trop. Et je me souviens que je t'avais montré une des coiffes, justement, oui. D'un de ces bronzes, où on voyait...
plein de petits traits encastrés,
oui,
ensemble.
Des traits encastrés, donc on voulait vraiment arriver à un résultat un peu similaire, mais qui soit le nôtre. Et c'est vrai que c'est... On a travaillé très tard ce jour-là, à essayer de les disposer. C'était la pauvre, je l'ai prise en otage, et on était ici, au studio, à faire 10 000 essais.
J'ai encore plein de petites toiles avec plein d'essais et je les garde pour me rappeler de ce moment. Elles sont chez moi. C'est des toutes petites avec plein de tests.
Plein d'Y partout.
Plein d'Y partout, des façons différentes de les mettre.
D'ailleurs, aujourd'hui, quand Inès écrit, il n'y a plus d'Y dans son nom. Son cerveau skip les Y, elle en a trop utilisé.
Là, je pense que ça va un petit peu mieux. Mais il y a une période, j'avais du mal.
Parce qu'en fait, une fois qu'on a trouvé le monogramme et qu'on a eu la silhouette et qu'on a, à travers une séance encore de travail ensemble, réussi à tout positionner comme on voulait, après, il a fallu vraiment que toi, tu rentres chez toi et que tu réalises les tableaux qu'on allait utiliser pour imprimer les carrés de soie.
Oui.
Et ça, ça a été aussi... un long chemin.
Oui, de base, je voulais faire par effet de tampon pour ne pas avoir à le refaire plein de fois, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas assez précis. Donc, il a fallu que je refasse tout directement.
À la main.
Tout à la main.
Oui.
Donc, c'était une étape, ça. C'était...
Et 4 tableaux en plus, je crois.
4, oui.
Ouais. Je ne sais pas si tu avais fait tout de suite les 4, enfin 4 tableaux. Et ensuite, une fois qu'on avait les tableaux, on s'est dit c'est bon. On a l'atelier, on envoie tout, et ça, on se retrouve 2 ans plus tard, à la veille du lancement de la campagne. C'est vraiment, je crois, on est à 6 semaines avant. C'était juste pour que l'atelier y arrive. Et on envoie les tableaux à l'atelier, et on reçoit les essais.
Qui n'allaient pas du tout.
Qui n'allaient pas du tout. C'était, il y avait des taches partout, et... l'impression du format, de l'effet peinture, rendait pas du tout, en fait. C'était un peu catastrophique. Mais nous, comme on avait tellement travaillé dessus, nous, on les adorait. Mais chaque fois qu'on montrait à quelqu'un, c'est pas très...
Là, bah, du coup, j'en ai 2 chez moi. Oui. Et vraiment, j'y suis attachée à la première version.
Oui, parce qu'aujourd'hui, les clientes peuvent acheter la version vraiment clean, qui a été redigitalisé.
Oui. Mais l'étape entre-temps où l'atelier l'a redigitalisé et ça...
Oui, mais ça, il faut l'expliquer. Donc, on reçoit les premiers essais qui sont l'impression des peintures sur carré de soie et c'est catastrophique. On ne peut pas les utiliser, on ne peut pas shooter avec, on ne peut rien préparer avec. Et donc, on se rend compte qu'on a déjà tout planifié pour aller à Paris avec... toute l'équipe, le mannequin, le photographe, tout le monde qui est prêt. Et nos foulards ne ressemblent absolument à rien. Enfin, c'est pas qu'ils ressemblent à rien, mais l'impression n'est pas qualitative. Et donc là, l'atelier, pour nous sauver, se propose de prendre les choses en main et de les digitaliser. Et donc Inès arrive le matin du shoot sur Paris. Et moi, j'avais déjà découvert, mais je voulais pas la stresser. Donc je la laisse découvrir le jour du shoot. Et là, j'ai vu sur son visage, j'ai cru que son cœur allait tomber de sa poitrine. L'atelier s'était pris quelques libertés, ils avaient réinventé un peu...
Certains détails
importants. Oui. Et c'était lesquels d'ailleurs ?
Il y avait les coins notamment, sachant que les coins de base sur les tableaux était vraiment fait pour représenter un Y. Je pense que c'est la première chose qu'on avait au niveau des foulards, donc c'était important de la garder. Mmh. Et ils en avaient fait une ligne toute droite. Enfin,
c'était horrible. Oui. Et donc, on s'est retrouvés à Paris avec le jeu de foulard, le premier jeu avec les impressions pas nickel, et le deuxième jeu avec l'atelier qui avait réinventé un peu les choses, et on a dû bricoler. Et ouais. En fait, Inès, vraiment sur chaque détail, a switché d'un foulard à l'autre ouais. selon la posture du Calista, la mannequin. Et ça a été vraiment...
Dès qu'on voulait juste les monogrammes, il fallait prendre les récents. Oui. Du coup, et dès qu'on voulait certains détails, il fallait prendre les anciens. Oui. C'était horrible.
Mais il ne fallait pas qu'ils soient shootés de trop près pour qu'on ouais. voit les problèmes d'impression. Et oui, ça a été quelque chose. Ouais. Et donc au final, on finit par shooter avec ce qu'on a dans les mains. Et on en arrive à rentrer. Et là, tu tombes malade parce que le shoot à Paris avait été hyper intense. Et je pense que dans ta vie, c'était intense aussi. Mais on avait une fenêtre de quelques jours ouais. pour tout redigitaliser nous-mêmes. Et donc, c'est dans ton lit, malade.
Oui.
Pendant 3-4 jours, je crois, ouais. que tu as redessiné les Y de manière digitale, comme tu les avais oui. fait à la peinture.
Tout refait d'un coup.
Et je me souviens, c'était... et moi, j'étais passée chez toi pour voir le rendu final, et on a encore bougé certaines choses. Et le week-end, tu as dû retravailler dessus. Ouais. Annoncer Y, ça a été...
Ah, ça a été quelque chose. Oui. Mais à la fin, il y a quand même eu le soulagement d'avoir réussi.
Oui.
Je pense que ça aurait été différent comme soulagement si on n'a pas eu toutes ces péripéties juste avant.
Oui.
Au final, c'était intéressant d'arriver à la fin et d'avoir vu vraiment tout le processus, tous les petits problèmes qu'on a eu entre-temps, enfin, oui. et d'y arriver quand même. Enfin, oui. C'est quand même une fierté.
C'était quasi mission impossible. Et puis surtout, je me souviens que même jusqu'à la dernière minute, comme on n'avait pas eu les foulards à temps, on n'a pas pu les shooter les pack shots. Donc, tu as dû venir à la veille du lancement pour m'aider à shooter les foulards qui... Enfin, les propres, les nets qu'on a reçus de l'atelier. Ouais. Et en même temps, quand on les a reçus, il y avait en toi et moi une certaine forme de... C'est pas 100% cet effet peinture qu'on voulait, mais au final, c'était... on y est arrivé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que toi, tu as appris de ce processus créatif.
La persévérance, dans un sens. Dans le sens où j'ai toujours grandi et qu'on m'a dit que j'étais très bonne en dessin, en peinture. Mais là, le fait d'avoir différentes étapes comme ça, ça m'a vraiment appris, déjà parce qu'il y a toute une période où, du coup, on avait fait une pause, ça m'a appris à remettre les choses en perspective et aussi à me pousser un peu plus loin dans un sens. À pas juste me reposer sur mes lauriers, entre guillemets, genre essayer d'aller vraiment d'apprendre des nouvelles choses. Et aussi de me rendre compte que même quand c'est dur, il faut toujours. Enfin, je pense que dans l'art, c'est très important de toujours essayer d'aller plus loin. Et je considère qu'un échec, c'est un réel échec quand on s'est arrêté. Et après, c'est très normal au final de perdre confiance en soi parfois. Et même moi, ça m'arrive au final, je suis devant une peinture et je sais pas quoi faire. Et je pense qu'il faut prendre un peu de recul et se dire que parfois une petite pause, ça peut faire du bien. Mais qu'il faut toujours s'y remettre dans un sens. Parce que je pense que quand on a des âmes créatives, enfin moi en tout cas, je sais que ça m'aide, c'est vraiment ce qui me fait vivre, entre guillemets. Donc s'arrêter, ça aurait été, je pense, très mauvais pour ma personne et pour mon développement aussi à moi. Et je pense que t'es aussi un peu comme ça dans le fait de s'arrêter, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais...
Oui, après, je disais tout à l'heure avec Shaima que c'est... on reste avec les regrets et le regret de ne jamais découvrir la personne qu'on aurait pu devenir et ce qu'on c'est aurait ça. Pu réaliser aussi. Et je pense que aller au bout de la démarche, que le résultat soit positif ou pas, ou en tout cas qu'on soit content ou pas, le chemin est tout aussi important parce que c'est l'apprentissage. Mmh. Et c'est la fierté d'avoir été au bout et de retirer soit une leçon, soit un chef-d'œuvre, peu importe. Mais pour moi, c'est il faut aller au bout.
Ouais. C'est ça. Ma mère m'a martelé le cerveau depuis que je suis petite à me dire à chaque fois, avec des si, on referait le monde. Dans le sens où, ah, si j'avais fait ça, si, non. Mais vu qu'on l'a pas fait, on ne saura jamais. Donc autant toujours, toujours tenter, toujours essayer. Enfin, voilà, persévérance, vraiment, c'est...
Le résultat final sur les 4 carrés, c'est lequel ton préféré et pourquoi ?
Mon préféré, c'est le grand blanc avec justement la figure. Je pense que c'est celui qui me rappelle le plus ce qu'on avait en tête de base, qui représente vraiment, en tout cas aussi pour moi, vraiment tout le travail. Il y a toujours la figure féminine, il y a tous les monogrammes, enfin tout le monogramme, pardon. Je pense que c'est celui qui représente vraiment majoritairement tout le travail qui a été réalisé. Et celui aussi, quand je l'ai peint, qui m'a fait énormément de plaisir à peindre, que ce soit esthétiquement ou matériellement parlant. Enfin, c'est vraiment, ça m'a... Ouais. Et quand je l'ai vu fini, ça m'a vraiment fait plaisir de le voir et je sais que ça m'a marqué comme sentiment.
Ouais. Et je me souviens aussi quand tu l'as amené ici au studio et que tu l'as mis sur la cheminée, on était unanime que c'était...
J'étais rassurée en voyant ta réaction, parce que moi, c'était mon préféré.
Oui.
Et voir aussi pour toi, c'était...
Oui, honnêtement, c'est... Pour moi, c'est le plus abouti.
Oui.
C'est celui qui reprend vraiment l'intention de départ.
Oui.
Et qui a amené ce tableau, ce très joli tableau que tu avais réalisé, à quelque chose de plus accessible,
oui,
avec lequel on peut jouer. Et il faut dire que, ma pauvre, tu as dû donner de ta personne, parce que tu as même posé pour...
J'aurais tout vu.
Ah non, mais ce projet, tu t'es donné à corps et âme. Et que représente le foulard pour toi ? Parce que moi, l'amour du foulard, je ne l'avais pas particulièrement avant. Je trouvais que c'était très chouette pour la marque de pouvoir s'offrir un espace de création différent que la maroquinerie. Et c'est en voyant ta manière d'attacher les foulards à chaque fois qu'on se voyait que tu m'as de plus en plus inspirée. Et j'avoue que moi, j'ai commencé à adopter le foulard de manière beaucoup plus vraie dans ma vie après mon opération de la thyroïde. Parce qu'il fallait que je trouve un moyen de passer l'été en beauté, on va dire. Et depuis que je porte des carrés de soie, j'adore parce que ça apporte, ça t'amène un peu de créativité, ça relève un peu, ça apporte une petite touche spéciale et en même temps c'est un côté très pratique de tenir tes cheveux, de nouer au cou et avec toi j'ai appris beaucoup. D'où te vient cet amour du foulard, dis-moi?
Ça vient de ma grand-mère majoritairement, de ma mère aussi, mais de ma grand-mère surtout. Je l'ai toujours vu avec des jolis petits foulards. Et elle en a offert, par exemple, à ma mère quand ma mère était assez jeune. C'était 2 carrés Hermès, je pense. Et ma mère m'a laissé en porter pour la première fois, du coup, quand j'étais beaucoup plus âgée. Elle me disait, quand tu seras adulte, tu pourras les porter. Et je pense que c'est ça, en grandissant, j'ai vraiment... Enfin, ça me paraissait comme quelque chose que je voulais, mais il fallait que j'attende. Et dès que j'ai pu, j'ai commencé à m'en acheter très souvent. Et je voulais faire comme ma grand-mère, comme ma mère. Je pense que très tôt...
Et que représente le foulard pour toi ? À part ces figures maternelles, qu'est-ce qui pourrait inviter les femmes qui nous écoutent à essayer de porter un foulard et à l'intégrer dans leur garde-robe et dans leur style ?
Moi, je trouve ça très personnel, en fait, un foulard, parce que c'est pas une pièce qu'on a l'habitude d'acheter, en fait. Donc, en général, quand quelqu'un jette un foulard, c'est très réfléchi. Et c'est quelque chose qui a pour but de rester dans le temps. Dans le sens où, avec la qualité de la matière, enfin, c'est quelque chose qu'on peut toujours modifier au niveau des styles. Il y a tellement de manières de pouvoir en mettre un, et c'est si singulier dans un sens. Moi, je sais que j'aime en porter parce que je sais que tout le monde n'aura pas forcément les mêmes foulards. Je sais que ça fera toujours une petite touche en plus. Et c'est personnel aussi à moi-même. Et je sais que, par exemple, moi, j'aime bien toujours avoir quelque chose sur la tête. Et foulard, pour moi, j'ai trouvé que c'était la meilleure façon. On peut les mettre de tellement de manières différentes que c'est personnel. Je pense que c'est quelque chose qu'on va garder. C'est comme un bijou de famille, par exemple. C'est quelque chose qu'on peut garder et transmettre à travers le temps. Parce que c'est pas, par exemple, comme une forme de manteau très précise qui va aller que pendant 10 ans ou même moins maintenant avec toutes les traînes qui arrivent. C'est vraiment quelque chose d'intemporel dans un sens. Et qui peut évoluer aussi en permanence, que ce soit au niveau des designs, de la manière de mettre. Moi, c'est pour ça que j'aime le foulard, en tout cas.
Tu sais que moi, j'ai découvert que la soie, c'était vraiment... Elle s'adapte à la température de ta peau.
Mais ma mère m'a toujours dit, quand on est malade, par exemple, il faut mettre de la soie autour du cou.
Mais moi, de porter un carré de soie, tout l'été, je suis revenue de mes vacances avec un sentiment de... Tu vois, comme si rien ne s'était passé de spécial dans ma vie. Je me sentais élégante, je pouvais porter des hauts assez dénudés et en même temps, j'étais protégée. Et je n'avais jamais trop chaud ou froid. Ce carré de soie était vraiment une pièce que je découvrais et que je m'étonnais de découvrir à un âge aussi avancé. Je pense que toutes les filles devraient avoir un joli carré de soie plus tôt.
Je suis d'accord.
Et les prochaines étapes pour toi après les études d'histoire de l'art, c'est comment toi tu entrevois ta carrière ? Vers quoi tu veux t'orienter ? Qu'est-ce que tu voudrais faire ?
J'ai envie de tout faire. C'est ça qui est un peu... je pense que j'ai du mal à rester sur place, dans un sens où j'ai envie de tout apprendre. J'ai envie de pouvoir tout faire en même temps. Je sais qu'avec une amie, on parlait de ce qu'on voulait dans plusieurs années, donc après nos études. Et ce qui revient souvent, c'est avoir une vie paisible, être bien installée, ce que je peux comprendre. Mais moi, ma première réaction, c'est en mode, je veux faire tellement de projets que je ne sais même pas où mettre la tête pour pouvoir aller un peu fin.
Oui, je vois ce que tu veux.
Que ce soit photographie, peinture, mode, même design, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est architecture d'intérieur. Enfin, j'ai juste envie de pouvoir découvrir le monde de l'art de manière générale, en fait. Le monde créatif, c'est...
Et qu'est-ce que l'art t'apporte ? À toi, comment il te permet d'apprendre à mieux te connaître ?
D'une première part, je dirais que ça m'aide à m'exprimer. Mais par exemple, si je prends la musique, qui est aussi une forme d'art et que j'aime beaucoup...
Justement de dire au revoir tout à l'heure à Shaïma.
Oui. Je trouve que c'est une manière aussi parfois de mettre des mots sur des choses qu'on peut ressentir et qu'on n'arrive pas justement à exprimer. Donc, que ça soit fait par quelqu'un d'autre ou par soi-même. C'est une manière aussi de se comprendre soi-même, de comprendre ce qu'on aime au final, quand on essaie vraiment de se concentrer sur nos propres réactions internes vis-à-vis de l'art, que ce soit visuel, auditif. Si on s'écoute, je pense que c'est une manière de pouvoir évoluer justement et pouvoir arrêter de dire oui à tout et commencer à sélectionner un peu les choses qui vraiment nous font plaisir dans la vie. Et... Je ne sais pas si j'ai l'impression de m'éloigner question.
Non, je t'écoute, vas-y.
Mais moi, c'est vraiment ça, c'est pouvoir être au plus proche de moi-même et en même temps découvrir énormément de choses en même temps. Je pense que c'est ça ce que ça m'apporte, en fait. Ça me permet d'être moi-même, oui, et de voir tellement de... Parce que tout le monde s'exprime au final et je trouve ça beau, toutes les manières de faire, en fait.
Mais il faut arriver à s'exprimer.
C'est ça.
Et parfois, on est dans des phases où on n'arrive pas à s'exprimer. Et l'art et la créativité sont des moyens de vraiment sortir ce qu'on a sur le cœur aussi et ce qu'on a apporté à ce monde. En quoi te sens-tu unique et différente des autres ? Ou est-ce que... Enfin, peut-être tu te sens pas.
Je pense que tout le monde est unique à sa propre façon.
Oui, mais pas de réponse bateau. Toi, qu'est-ce qui fait que tu pourrais être en décalage ou tu as quelque chose d'un peu différent par rapport aux gens que tu côtoies ? C'est quoi ton truc à toi ?
Mon truc. Je sais que j'ai un attrait particulier pour l'esthétique. Je veux pas dire de manière superficielle ou quoi que ce soit, mais vraiment dès que... quelque chose est beau, donc visuel, auditif, même ça peut être une fleur ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui me marque énormément. Je pense que c'est ça qui est... Je sais pas.
Mais c'est pas mal, déjà. Alors, dis-moi, dans... Oui, bah, tu nous as déjà répondu à ça. Je crois qu'on a parcouru. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais qu'on aborde ? Parce que je n'ai pas voulu aborder le décès de ton papa et tout ça, parce que ça ne regarde personne d'autre que toi et ta famille. Et est-ce que... Qu'est-ce que tu penses de la marque, Yeba ?
J'aime beaucoup.
J'espère.
Oh, oui. Ça m'a un peu... je dirais en termes de maroquinerie, ouverte à plus de style dans un sens. Je trouve qu'on est très vite catégorisé en fonction de son âge. Et j'ai trouvé qu'en fait, avec tes pièces, elles ont un côté intemporel qui peut être un peu classique. Pas toutes pour le coup, mais certaines. Et je trouve que réussir à apprendre de ça, c'est aussi une manière... je sais pas, moi ça m'a... j'aime beaucoup parce que du coup, je peux le mélanger parce que de temps en temps, j'ai des pièces assez excentriques. Et je trouve ça très beau de pouvoir balancer de cette manière-là. C'est...
Merci.
J'aime beaucoup.
Voilà. Et pour finir, pour toi, Inès, l'essentiel, c'est de...
D'être fidèle à soi-même, je dirais. Et de s'écouter.
Merci de t'être prêtée au jeu. Je vous avoue qu'elle était tétanisée à l'idée d'enregistrer ce podcast. Mais c'était important pour moi de vous présenter Inès parce qu'elle elle a réussi à matérialiser un de mes rêves. Parce que moi, quand j'ai lancé la marque, je savais qu'à un moment donné, il me fallait un monogramme, qu'il me fallait évoluer vers quelque chose d'un peu plus fluide. Parce que le processus de la maroquinerie est un processus assez lourd aussi. Et c'est une véritable artiste, c'est une âme créative, assez jeune, mais en même temps, elle a traversé pas mal de choses. Et j'ai été quand même bluffée par sa résilience. Parce que ces foulards n'ont l'air de rien comme ça, mais ils sont très beaux. Je ne veux pas dire l'air de rien, mais c'est un long cheminement, c'est 2 années d'échange, de recherche, de travail, de pause, de retour last minute, de déception, d'atelier, de on y va quand même si c'est pas parfait, de on n'a plus beaucoup de temps, mais on va faire au mieux pour que celles qui le voient ressentent toute l'intention qui est dans ces foulards. Et donc, je voulais vraiment te remercier et te souhaiter vraiment de continuer avec Yeba et avec d'autres marques à explorer et à donner vie à leurs idées. Voilà.
Est-ce que je peux dire un petit mot ?
Oui, bien sûr.
Moi, je voudrais te remercier parce que tu m'as fait confiance pendant plus de 2 ans maintenant. Et je pense que ça aurait été une expérience complètement différente pour ma première introduction dans le monde de la mode. Si ça avait été avec une personne différente de toi, parce que tu m'as vraiment soutenue du début à la fin. Même dans les moments de creux, vraiment. Et je trouve ça incroyable et je suis vraiment... j'ai beaucoup de gratitude sur le fait que tu m'aies beaucoup épaulée pendant tout ce long moment. Et,
avec plaisir.
Je le disais à ma mère parce qu'on parlait d'expérience dans la mode et je lui disais j'ai beaucoup de chance, je pense, d'avoir commencé comme ça.
Oh là là. Merci, avec grand... Enfin, merci beaucoup. Et... les valeurs de la marque, c'est des valeurs que je porte personnellement, que j'essaye de vivre au quotidien aussi. Et quand je vois un talent, ça devient une obsession pour moi. J'ai tellement, tellement besoin et envie d'aider ce talent à s'épanouir. Et je peux dire que tu en es un. Donc voilà, mais j'espère... parce que l'histoire de ces foulards ne s'arrête pas, parce qu'on les a sortis un peu sous la contrainte du temps. Mais Inès va travailler encore un peu avec moi pour qu'on puisse leur donner vie visuellement, vous donner envie et que cet été, vous ne puissiez pas vous balader sans un foulard à nu. Ouais.
Exactement.
Voilà, bah, it's a wrap. Je ne sais pas si tu veux rajouter autre chose, mais...
je pensais.
Je pense qu'on y est, là. It's a wrap. Merci beaucoup. Ah là là, j'ai l'air sympa comme ça, mais je suis un vrai tyran. Je l'ai
pas
forcé. Voilà, it's a wrap. Merci.
Alors, le petit mot de la fin. Si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches qui pourraient être intéressés. Cela nous aiderait tellement à grandir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, laissez-moi un avis ainsi que 5 étoiles sur iTunes. C'est comme ça que nous aurons la chance de monter dans les classements et d'atteindre plus de monde. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous rejoindre. Poursuivons notre route ensemble. À la semaine prochaine. À bientôt.